BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
L'agence spatiale européenne a donc fui donner la semaine dernière le coup d'envoi de la future Ariane 6 en signant avec ASL le contrat de développement du lanceur européen. Stéphane Israël, vous êtes donc le PDG d'Ariane Espace. On va en parler avec vous. Quand on dit Ariane 6, c'est le lanceur, mais ça n'est pas que le lanceur. Il y a la base aussi hein, qui va être faite. Je crois que les travaux doivent commencer en Guyane, doivent même commencer avant la saison des pluies, parce que dès que la saison commence, ça complique considérablement la donne.
Oui, c'est effectivement avant tout un lanceur, mais aussi une base de lancement qui sera naturellement un pas de tir, qui sera naturellement au centre spatial guyanais. Les travaux vont commencer. Le site a déjà été sélectionné. Et donc, pour donner quelques ordres de grandeur, l'idée, c'est d'avoir un premier lancement d'Ariane 6 en 2020. Mm-hmm. Le montant du contrat est de 2,4 milliards pour Airbus Safran Launchers, mm-hmm. de 600 millions d'euros pour le CNES, qui est le maître d'œuvre du pas de tir qui va être construit en Guyane. Et Airbus Safran Launchers va aussi investir 400 millions d'euros avec ses partenaires industriels dans Ariane 6, ce qui montre la confiance de cette industrie, de cette entreprise dans l'avenir d'Ariane. Et donc l'idée, là vraiment, toutes les énergies vont être tendues pour que en 2020, on puisse avoir le premier lancement d'Ariane 6.
Ce qui représente aujourd'hui un effort vraiment considérable en termes de technologie, par exemple. On a vu qu'ASL allait, et c'est peut-être grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont décroché une partie du contrat, alors pardon pour le terme, mais faire pas mal de récup.
Oui, c'est de la bonne récupération. Il va y avoir beaucoup de technologies sur étagère et c'est pour ça qu'on va pouvoir aller aussi vite pour développer ce nouveau lanceur. Il y a par ailleurs un nouveau moteur, le nouvel étage supérieur qu'on appelle le Vinci, qui lui est développé depuis plusieurs années. Donc là, c'est vraiment une innovation technologique, mais elle était sur les rails, si j'ose dire, depuis plusieurs années. Mais effectivement, l'idée d'Ariane 6, c'est vraiment de faire un lanceur compétitif, un lanceur design to cost, comme on dirait en anglais, pour être le plus agressif et le plus performant sur le marché possible.
Compétitif, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire un lancement à 70 millions d'euros à peu près?
Alors les ordres de grandeur, effectivement, pour une Ariane 6 institutionnelle qui aura vocation à faire les lancements institutionnels de l'Europe, on est plutôt effectivement aux alentours de 70 millions d'euros. Pour une Ariane 6 commerciale, Ariane 64, qui fera du lancement double, comme aujourd'hui Ariane 5, on est au-delà de 90 millions d'euros, mais on est tout à fait en ligne avec ce que propose la concurrence.
Alors justement, évidemment, vous avez prononcé le fameux terme de compétitif. La concurrence, c'est SpaceX, en l'occurrence. Quand on regarde, enfin, aujourd'hui, en tout cas, pas pour le Ariane 6, mais quand on regarde les prix aujourd'hui, il s'affiche actuellement sur notre écran, si vous nous suivez en télé, il y a quand même un gros gap entre vous et les autres. Ariane, autour de 100 millions à peu près, et les autres, si on prend SpaceX, donc Falcon 9, 60 millions d'euros.
Alors, faut être un peu plus précis. En fait, quand on parle de 60 millions de dollars pour un satellite lancé par SpaceX, il faut le comparer, s'agissant d'Ariane, à un prix qui serait environ de 70 millions de dollars. On est dans cet ordre de grandeur. Et pour les gros satellites, puisque dans Ariane 5, on met des gros satellites, on est au-delà de 100 millions de dollars.
100 et 150.
Non, on est enfin au-delà de 100 millions de dollars. Alors maintenant, vous avez quand même un paramètre qui est très important, qui est le niveau du dollar, puisque nous avons des coûts en euros et des revenus en dollars. Quand le dollar s'apprécie, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, nous pouvons diminuer nos prix en dollars, et plus le dollar s'apprécie, plus nous sommes compétitifs. Donc le paramètre monétaire est très important. Ce qui est certain, c'est que Ariane 6 sera moins cher, sera plus compétitif encore. Mais vous savez, dans la compétitivité, il y a un facteur clé qui est la fiabilité du lanceur. Rien n'est jamais acquis en la matière. Mais
c'est vrai que ça, c'est votre argument. C'est ce que vous mettez souvent. Quand on vous parle de ce prix, votre argument, c'est oui, mais nous, on est fiable. 65 lancements,
66 lancements réussis d'affilée. Nous sommes le seul lanceur sur le marché à pouvoir proposer à pouvoir offrir cette performance. Vous savez que notre compétiteur a eu un échec à la fin du mois de juin, et ça montre à quel point les lanceurs sont un domaine compliqué, un domaine où l'échec n'est jamais très très loin du succès. Donc il faut rester extrêmement vigilant. Et c'est vrai que Ariane 5 est éprouvé dans ses méthodes de production, de qualification, dans ce qu'on pourrait appeler sa qualité globale, et la fiabilité est un argument extrêmement important, parce que, vous savez, les opérateurs, on va lancer pour Eutelsat et Intelsat jeudi, ils ne lancent pas beaucoup de satellites par an, ils en lancent 1, 2, 3 maximum dans les années très fastes, et ils ont plutôt envie que leur bébé arrive au bon endroit de façon sécurisée. Or, c'est le grand avantage comparatif d'Ariane 5.
La fiabilité a un prix, en fait.
La fiabilité a un prix, tout a un prix, mais la fiabilité a un prix.
tout de même, ces nouveaux arrivants, enfin à force de dire nouveaux, ils sont plus vraiment nouveaux aujourd'hui, mais ils vous ont quand même obligé à revoir un peu votre business.
Oui, et d'ailleurs c'est très bien. La concurrence, c'est quelque chose qui stimule, c'est quelque chose qui vous fait changer. Moi, je suis arrivé chez Arianespace il y a maintenant un peu plus de 2 ans, au moment où SpaceX a réellement confirmé. Il a eu ses premiers succès à partir de 2010-2011 et son premier lancement réussi vers l'orbite géostationnaire, qui est celle où va en général Ariane 5, en décembre 2013. Toute l'Europe s'est mobilisée, les agences, l'industrie, Arianespace, ça a donné 2 décisions clés, un nouveau lanceur, Ariane 6, qui vient d'être signé, vous l'avez dit, par l'Agence Spatiale Européenne avec ASN, mais aussi une nouvelle gouvernance, une réorganisation des rôles, une responsabilisation accrue pour l'industrie et qui va travailler différemment en amont avec les agences et en aval avec Arianespace.
Et vous êtes aujourd'hui un peu protégé par des lois américaines, si je ne me trompe pas, de lanceurs chinois. Est-ce que vous craignez qu'un jour, ou pour des raisons diverses et variées, ces lois évoluent et que vous vous retrouviez en concurrence frontale avec ce fameux lanceur chinois?
Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui la fameuse législation ITAR. ITAR, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout satellite qui a un composant américain est interdit de voler sur un lanceur chinois. C'est effectivement une législation américaine, ça ne vient pas du tout des Européens, et ça réduit la concurrence, ça met pour les satellites commerciaux la Chine plus ou moins hors course.
Ça vous préserve,
si vous voulez aller avec un lanceur chinois, en général il faut aussi lui confier votre satellite, et donc ça limite le nombre de candidats à cette démarche. Maintenant effectivement cette législation pourrait évoluer et il faut être compétitif dans tous les cas de figure. Nous avons été longtemps Arianespace en compétition avec le Proton, qui est un lanceur russe et qui n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot. Depuis quelques années, nous sommes dans une situation de quasi-duopole avec SpaceX. Demain, avec Ariane 6, il faudra être prêt à faire face à d'autres entrants, la Chine peut-être, l'Inde aussi. Et c'est l'idée d'Ariane 6 d'avoir un lanceur compétitif, quelles que soient les situations de marché.
Vous évoquiez il y a un instant l'échec de SpaceX. Est-ce que cet échec est de nature, ou il est trop tôt pour le dire pour le moment, à vous ramener des clients? Parce que vous le disiez, voilà, quand on met plusieurs dizaines de millions de dollars sur la table pour un satellite et pour un lancement, on veut que son bébé arrive à bon port. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire oui, on a de nouvelles discussions, ou peut-être on a signé de nouveaux contrats avec des clients que nous n'avions pas avant?
Enfin, je crois qu'il faut rester modeste, mais ce qu'on peut dire sans exagérer, c'est que l'échec qui est survenu à la fin du mois de juin a eu tendance à conforter un certain nombre de clients dans le choix d'Arianespace. Donc, dans les discussions que nous avons en ce moment avec des clients, nous voyons bien que cet échec est pris en compte. Maintenant, SpaceX reviendra en vol. Mm-hmm. Il est certain que s'il y avait d'autres échecs, ce mouvement serait plus important. C'est ce qui s'est passé sur Proton. Proton a eu tendance ces dernières années à échouer plus d'une fois par an. Et là, il y a eu un afflux de satellites vers Ariane 5, notamment en 2013. Si SpaceX a une nouvelle mésaventure, on constatera le même afflux. On va dire qu'à ce stade, cet échec a conforté des clients vers Arianespace. Et puis, il pose des questions sur ce que fera notre compétiteur dans les années à venir. Va-t-il continuer dans sa stratégie du récupérable? Vous savez, son idée, c'est de faire revenir la fusée
le premier étage.
Voilà, enfin, le premier étage. Bon, nous considérons que la première priorité d'un lanceur, c'est quand même d'aller en haut. Bon, il a une stratégie qui est un peu différente. Il veut développer un lanceur lourd, le Falcon Heavy, dont il a dit qu'il allait prendre du retard. Il veut faire lui-même une constellation. C'est aussi tout cela que cet échec doit remettre en perspective. Comment notre compétiteur va ajuster sa stratégie par rapport à cet échec? Nous avons eu aussi des échecs, il faut être extrêmement modeste, mais il est certain que cela montre en contraste la fiabilité d'Ariane 5.
Et vous avez de quoi aujourd'hui absorber, en cas de, c'est de la politique future, de la politique fiction, mais en cas d'afflux de nouveaux concurrents, votre calendrier vous permet, parce qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps Eutelsat, vous disiez, d'un double lancement prévu jeudi, qui nous disait, voilà, aujourd'hui, avec Ariane Espace, mine de rien, le calendrier est très serré. Ils ont assez peu de, sans mauvais jeu de mots, de champ de tir pour pouvoir démultiplier les clients.
À court terme, nous n'avons pas beaucoup de slots disponibles. Donc à court terme, ça serait difficile. S'il fallait accueillir un satellite dans 6 mois, ça serait difficile. À plus long terme, nous avons naturellement des disponibilités à partir de 2017 et plus encore en 2018. Mais c'est vrai que nous avons une contrainte qui est liée à notre cadence et à ce que nous pouvons réaliser, et puis à notre carnet de commandes qui est supérieur à 5 milliards d'euros. Jamais Arianespace n'a eu un carnet de commandes aussi important.
Alors, on a également appris, ça a été une année mouvementée hein, pour vous, avec cette privatisation, donc ASL en l'occurrence. Où en est aujourd'hui, d'un point de vue capitalistique, où en est aujourd'hui cette prise de capital?
Bon, alors d'abord, effectivement, je ne sais pas si on peut parler de privatisation, car Arianespace était déjà une entreprise privée aux deux tiers. Les deux tiers de son capital...
C'est le gouvernement qui parle de privatisation.
Peu importe les termes, mais en tous les cas, il y a un projet, effectivement, de cession des parts du CNES, l'Agence spatiale française. L'accord a été donné. On entre maintenant dans une phase où il y a des consultations sociales et puis des consultations de la Commission européenne, des autorités d'antitrust américaines. Il faut attendre la fin de ce process pour que la cession des parts devienne effective, sans doute à la fin de l'année 2015.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, notamment en termes de gouvernance, par exemple?
Ça, nous le verrons, parce qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il faut que la cession soit effective pour qu'ensuite nous travaillions sur la gouvernance. Ce qui est certain, c'est que...
Aujourd'hui, vous n'y avez pas encore travaillé? Si, forcément.
Ce qui est certain, c'est qu'Arianespace va rester une société indépendante, autonome, qui aura ses propres dirigeants, sa propre gouvernance, qu'elle sera en charge de la commercialisation du lanceur Ariane, également Vega et Soyuz, et puis de tout ce qui conduit à l'autorisation de lancement. Elle sera l'opérateur de lancement, mais elle va travailler différemment avec l'industrie, elle sera plus proche de l'industrie. Quel sera l'intérêt de cela? Aujourd'hui, quand vous avez une secousse sur le marché, par exemple avec SpaceX qui arrive, vous avez beaucoup, beaucoup d'acteurs qui doivent se réunir pour prendre des décisions. Et puis, vous avez une forme de coupure, l'industrie fait le lanceur et nous le vendons. Mmh. Demain, il y aura plus de continuité, nous serons pas simplement plus compétitifs, nous serons aussi plus réactifs pour nous adapter à des évolutions de marché. Et donc, il y aura, notamment en Guyane, une réflexion sur ce que doit faire Arianespace dans les opérations de lancement, ce que doit faire la co-entreprise Airbus Safran Launchers. Mais ce qui est important, c'est que nous avons un cap qui est le même, Ariane 6, et une ambition qui est la même, rester les leaders sur le marché.
Et vous évoquez Soyuz il y a un instant, Soyuz qui va avoir une activité assez
va avoir du travail.
Voilà, dans les prochaines années, avec cette constellation OneWeb. Alors en deux mots, c'est quoi? Ce sont 900 satellites qui vont être déployés. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ce sont déjà des satellites beaucoup plus légers que les grosses satellites de télécommunications, et qui seront à peu près à 1000 km de distance et non pas à 36 000 km comme les satellites géostationnaires aujourd'hui. L'intérêt, donc, c'est de couvrir l'ensemble des zones du monde au web, de leur fournir en tout cas du web, des zones qui aujourd'hui n'y ont quasiment pas accès. Et c'est donc Soyuz qui va être en charge de lancer l'ensemble de la constellation?
Oui, alors d'abord, effectivement, le but, c'est la course à la connectivité. Il y a un besoin de connectivité qui explose. Vous aurez de plus en plus d'objets connectés. Demain, les voitures seront connectées. On sera connecté quand on sera dans les avions. Et pour cela, on va avoir besoin de nouvelles solutions. Il y a les solutions terrestres, mais on aura de plus en plus besoin des satellites. Et le projet de OneWeb, c'est effectivement de faire en sorte qu'en tout point du globe, on ait un accès à Internet à un coût abordable. Il y aura un constructeur pour ces satellites qui a été choisi, c'est Airbus Satellite, et puis une société de lancement de référence, c'est Arianespace. On doit déployer 672 satellites par grappe de 32 satellites à travers 21 lancements de Soyuz. Ces lancements de Soyuz, on va les faire depuis la Russie et depuis le centre spatial guyanais. Il y aura un autre lanceur qui est le lanceur de Richard Branson, Virgin Galactic, qui fera des lancements chirurgicaux. Ils déploieront 1 à 3 satellites à chaque fois, notamment quand un satellite tombe en panne. Et puis nous espérons aussi, à partir de 2020, avoir aux côtés de Soyuz Ariane 6 pour déployer la suite de OneWeb, puisque OneWeb a aussi souscrit des options pour Ariane 6 auprès d'Arianespace. Et vraiment, c'est une nouvelle aventure, c'est l'aventure des constellations en orbite basse. Ces constellations vont-elles réussir à apporter une solution de plus pour connecter l'humanité à Internet? On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de frémir. Greg Weiler, qui est le patron de OneWeb, a rassemblé beaucoup, beaucoup d'argent. Il doit continuer à lever des fonds, mais il a des partenaires extrêmement solides. Et donc, ce projet, maintenant, est en train vraiment de prendre une consistance, une force. Et nous sommes très, très confiants dans le fait que nous ferons, en 2017, depuis la Guyane, un premier lancement pour OneWeb.
Ce projet, vous, il va vous rapporter combien?
Alors, c'est un contrat, on va dire, d'environ 1,5 milliard de dollars. Ça dépend si on compte les options ou si on s'en tient aux 21 lancements. Et évidemment, pour Arianespace, c'est un contrat très important parce que c'est un contrat qui va sécuriser notre cadence de Soyuz. Et c'est un contrat, effectivement, c'est le plus gros contrat commercial que nous ayons jamais signé. C'est d'ailleurs le plus gros contrat commercial qui ait jamais été signé dans le domaine du transport spatial commercial.
Et là, on parle de OneWeb, mais il y a d'autres constellations qui sont dans les cartons. Notamment du côté de chez Google ou de chez SpaceX en l'occurrence. C'est quoi le premier arrivé à gagner?
Le premier arrivé a un avantage parce qu'effectivement, il sera le premier à offrir ses services, à offrir sa solution, donc il aura un avantage vis-à-vis des clients, mais il y a certainement de la place pour plusieurs constellations. Vous avez évoqué le projet de SpaceX. Aujourd'hui, c'est un projet qui est beaucoup moins avancé. On parle d'un déploiement de 2 satellites expérimentaux l'année prochaine. Il est certain que OneWeb et Greg Weiler ont pris une longueur d'avance, mais il faut aussi penser à des clients plus traditionnels d'Arianespace, comme Eutelsat. Eutelsat a des projets de satellites géostationnaires classiques à 36 000 km qui donneront aussi un accès plus important à Internet. Il a déjà un satellite qui s'appelle Kaasat. Donc, on va avoir de plus en plus recours aux satellites, soit en orbite basse avec ces constellations, soit en géostationnaire, pour apporter Internet à l'humanité.
Vous me dites qu'il y a de la place pour plusieurs constellations. Ça veut dire que là, à 1000 mètres au-dessus de nos têtes, dans quelques années, il y aura plusieurs dizaines de milliers de satellites qui se promèneront ?
C'est une possibilité. Alors, il y a quelque chose qui est très important et que OneWeb a parfaitement prévu, c'est tout ce qui est d'avoir un espace propre, de gérer les fins de vie de ces satellites qui devront quitter l'orbite où ils sont de façon propre. Et OneWeb a évidemment travaillé là-dessus. Il faudra que les compétiteurs de OneWeb travaillent dessus parce que il ne faut pas que cet espace broche soit un espace qui devienne saturé, soit de satellites, soit le moment venu de débris. Mais cela fait partie des choses sur lesquelles OneWeb a travaillé.
C'est passionnant. Merci beaucoup Stéphane Israël d'avoir été notre invité ce soir dans le Grand Journal. Le PDG donc d'Arianespace qui revenait pour nous sur le futur Ariane 6 et donc sur cette constellation, je rappelle, plus de près de 900 satellites, donc constellation OneWeb. Merci encore. Vous restez avec nous, on marque une petite pause sur BFM Business en plein cœur de ce Grand Journal. Puis juste après, on revient sur cette crise porcine et puis nous parlerons également de ce contrat géant pour Airbus. C'est à suivre dans quelques minutes sur BFM Business.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, David Doba.
Le Grand Journal qui s'intéresse ce soir à la crise porcine et à la crise des éleveurs avec vous, Olivier Dauvert, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, spécialiste de la grande distribution. Et si on a voulu vous avoir, eh bien, alors on va évidemment parler de la crise porcine, mais on va essayer de faire un parallèle avec la crise du lait. Vous avez publié ce matin une étude, en l'occurrence, qui tente à faire toute la lumière sur le jeu joué par les acteurs de la grande distribution, à savoir ceux qui se livrent une véritable guerre des prix au sujet donc du lait, et ceux qui, à l'inverse, acceptent de le vendre plus cher, semble-t-il, mais je dis bien semble-t-il, pour pouvoir mieux payer les éleveurs. Que doit-on retenir de cette étude ?
Alors effectivement, jeudi dernier, on a mis le nez dans les prix de 2300 magasins en France. Donc tout ça déjà pour dire que c'est pas une observation dans quelques magasins. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait de très gros écarts sur le produit le plus symbolique de ce rayon. C'est la fameuse brique de lait premier prix, celle qu'achètent près de la moitié des consommateurs en France et qui peut être vendue suivant les enseignes de 62 centimes à 69 centimes. Alors en apparence, peut-être que ça ne fait pas beaucoup d'écart.
Ça fait quand même 11%,
donc effectivement il faut le relativiser. Et puis surtout, c'est la différence qui va permettre ou non aux enseignes de payer le prix du lait à la hauteur de ce que les éleveurs attendent, c'est-à-dire le seuil très symbolique des 340 euros la tonne, qui est le montant que les éleveurs laitiers veulent obtenir. Donc on s'est rendu compte que certaines enseignes avaient déjà répercuté les hausses de prix, et c'est la première fois que ça arrive que sur un produit aussi bataillé que la brique de lait, on constate des écarts aussi forts. Donc ça pourrait être le premier symbole du fait que la grande distribution finalement commence à jouer le jeu des éleveurs en acceptant de vendre plus cher des produits qu'elle pourrait donc en conséquence payer plus cher. Ce qu'on ne maîtrise pas encore à date évidemment, c'est la réaction du consommateur, parce que les deux enseignes qu'on a identifiées comme étant, allez, j'allais dire, les meilleurs élèves, qui sont Intermarché et Système U et Super U, le risque pour elles, c'est de se dépositionner en termes de prix et d'apparaître comme moins intéressantes pour les consommateurs. C'est un risque, on le surveillera dans les jours qui viennent.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la crise porcine ?
Oui, parce que si les éleveurs veulent pouvoir être payés sur la base d'1,40€ au minimum, qui est le prix là aussi très symbolique que le ministre de l'Agriculture veut pouvoir atteindre, c'est bien parce qu'au final, dans les rayons, les distributeurs le vendront plus cher. Il y a toutefois une petite différence avec le lait, c'est qu'une bonne partie du porc n'est pas vendu en produits frais à la boucherie, il est aussi transformé en jambon, en pâté, en rillettes ou que sais-je encore. Et là, la lisibilité du prix est quand même plus compliquée parce que ben, il y a d'autres ingrédients, il n'y a pas uniquement le porc. Mais le parallèle, il est là, c'est que si on veut que les éleveurs gagnent mieux leur vie, il faut que le consommateur paye plus cher ces produits alimentaires. Et encore une fois, ce combat-là, il n'est pas gagné d'avance, hein, parce qu'on voit bien que depuis des années, le client, il est quand même très orienté sur le prix. Il favorise plutôt les enseignes qui cassent les prix que celles qui vendent cher. Donc, on est vraiment à un tournant de la relation entre, d'un côté, les éleveurs et, de l'autre, les consommateurs. Les consommateurs accepteront-ils de payer plus cher ? C'est pas gagné.
Moi, ce qui me choque mine de rien dans cette affaire, c'est que, en tout cas dans votre étude, hein, c'est que si certaines acceptent de jouer le jeu, deux en l'occurrence, toutes les autres, je dis bien toutes les autres, sont en dessous du prix moyen des fameux 66 centimes, si on revient sur la brique de lait, premier prix, des 66 centimes.
Alors, c'est le principe d'une moyenne. Pour que certains soient au-dessus, il faut que d'autres soient en dessous, bien évidemment.
Il y en a qui sont vraiment en dessous.
Oui, oui, il y en a qui sont 11% en dessous. C'est très surprenant, je ne vais pas être leur avocat, mais dans un marché qui est très orienté sur la quête de prix bas, parce que les consommateurs sont comme ça, encore une fois, c'est un sacré risque d'augmenter ces prix. Et donc, on peut à la fois comprendre ceux qui ont décidé de jouer le jeu et de vendre leurs briques plus cher que la moyenne. Encore une fois, c'est le cas d'Intermarché et de Super U. Mais on peut aussi comprendre, d'un point de vue compétition, compétitivité, ceux qui disent « moi, j'attends de voir ». Parce que si Intermarché et U vendent plus cher, mais qu'ils ont au final moins de clients, c'est pas sûr que ça arrange les éleveurs. Hein. Donc le véritable juge de paix, encore une fois, c'est ni les industriels, ni les distributeurs. On leur fait un faux procès pour une bonne part, c'est le consommateur. Acceptera-t-il, oui ou non, d'acheter ses produits alimentaires plus cher? On n'a toujours pas la réponse.
Ce qui ressort également, c'est qu'on a longtemps entendu dire, voilà, ce sont les acteurs de la grande distribution qui sont responsables de tous les maux. Puis après, on a entendu dire, non, mais en fait, ce sont les intermédiaires qui sont responsables de tous les maux, en l'occurrence, la transformation. On voit qu'en réalité, le problème est bien plus complexe que cela.
Il est tout à la fois plus complexe, mais aussi plus simple, parce que l'économie, c'est quand même pas très difficile à comprendre. Si on veut que celui qui produit vende plus cher, il faut bien que celui qui consomme accepte de le payer plus cher. Et on a beau se raconter des tas d'histoires, de se renvoyer la balle, les distributeurs vers les industriels, les éleveurs vers les industriels, le politique vers un peu tout le monde pour se dessaisir de ce dossier-là, c'est bien parce qu'au final, le consommateur est aujourd'hui très attiré par les prix bas, qu'on a du mal à ce que nos éleveurs, nos agriculteurs, vivent dignement de leur travail. C'est bien le consommateur qui a le pouvoir de mieux rémunérer les éleveurs ou non, peut-être par exemple en lui indiquant de manière beaucoup plus claire la provenance des produits. Moi je suis frappé quand je suis dans des rayons charcuterie, je passe ma vie en magasin, mais comment accepte-t-on encore que sur des jambons, il y ait comme origine simplement marqué « porc UE » pour Union Européenne? Il vient d'où ce porc? De France, d'Allemagne, du Danemark? Alors si c'est marqué UE, il vient probablement pas de France. Eh bien dans ces cas-là, il faut le dire. Et c'est comme ça que peut-être demain, le consommateur acceptera de surpayer.
J'ai quand même eu l'impression à la lecture de votre étude que vous doutiez parfois, en tout cas vous posez vraiment la question de savoir si le fait de payer plus cher profite aux éleveurs. Est-ce qu'effectivement, Super U et Intermarché, à votre avis, reversent plus d'argent aujourd'hui aux éleveurs?
Alors, effectivement, le doute est légitime par principe parce que les contrats ne sont pas publics. Le fait qu'Intermarché et Système U acceptent actuellement de vendre le lait plus cher que leurs concurrents, c'est pas une condition qui est suffisante pour que les éleveurs soient mieux rémunérés. Par contre, c'est une certitude que c'est une condition nécessaire. Et donc ça, c'est les éleveurs qui demain devront dire, et les industriels transformateurs, si ces deux enseignes qui sont plutôt les bons élèves en termes de prix du lait en France sont aussi des bons élèves dans le prix réellement payé. Donc encore une fois, la condition n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Il faut commencer par vendre le lait plus cher si on veut qu'au final, au premier maillon de la chaîne, l'éleveur puisse en profiter.
Olivier Devers, on a appris aujourd'hui que Ségolène Royal allait recevoir d'ici une dizaine de jours les acteurs de la grande consommation pour leur parler cette fois-ci de gaspillage alimentaire. On sait que c'est le nouveau cheval de bataille de la ministre. Est-ce que vous pensez que dans cette bataille, les industriels, les acteurs de la grande consommation sont de nature à jouer le jeu?
Oui, et d'autant plus qu'il le joue déjà pour, encore une fois, passer ma vie en magasin. Mais il y a tellement d'exemples de grandes surfaces qui donnent leurs invendus localement que, très franchement, cette loi sur l'obligation de donner les invendus, elle va pas apporter quelque chose de phénoménal comparé à ce qui se fait déjà. On est dans le registre du symbole, il faut l'accepter, le politique est parfois fait de symboles, mais j'aurais tendance à dire, quitte à faire des symboles, autant commencer peut-être par ce que l'État contrôle plus ou moins directement, par exemple les cantines et toute la restauration collective. Si vous voyez, si vous imaginez le montant du gaspillage qu'il y a dans ces circuits-là, finalement, les distributeurs sont des doux agneaux comparés à ça. Ils ne sont pas indemnes de tout reproche, bien évidemment, mais sur la base du volontariat, on voit déjà tellement d'initiatives demandées aux banques alimentaires en local où elles se fournissent. La plupart du temps, elles vous répondront au cul des magasins. Excusez-moi d'être familier, mais quand même, mais c'est exactement ça. C'est du côté de la réserve lorsque les produits ne sont pas vendus. Donc, on est plus dans le symbole que dans, que dans le besoin réel d'encadrer et de diminuer le gaspillage alimentaire. Il y a des tas d'autres endroits, encore une fois, à commencer par la ration collective gérée par l'État, où là, franchement, il y a des camions et des camions qui sont gaspillés tous les jours.
Comment expliquer qu'avec tous les outils dont disposent aujourd'hui les acteurs de la grande distribution, on arrive encore à avoir aujourd'hui près de 40 kilos, je crois, si je ne me trompe pas, il faut peut-être préciser le chiffre, mais près de 40 kilos de nourriture qui sont jetés chaque jour par supermarché?
Alors, il y a un réel paradoxe, j'allais dire un effet de ciseau. D'un côté, on a fait d'énormes progrès de prédiction sur les volumes vendus et donc on gaspille grâce à ça beaucoup moins qu'avant. Mais dans le même temps, on est devenu de plus en plus hygiéniste et y compris d'ailleurs sous la pression du consommateur. Vous-même, quand vous êtes client dans un magasin, est-ce que vous prenez le yaourt ou la barquette de jambon qui a la date la plus près de vous ou la plus loin, même si c'est pour consommer le soir même? Regardez-vous, je me regarde aussi en vous disant ça bien évidemment, on est tous à mettre cette pression hygiéniste sur les enseignes, et qu'est-ce qu'elles font? Elles répondent avec des engagements fraîcheurs. Regardez, dans tous les magasins aujourd'hui, on vous explique que on va retirer les produits de charcuterie 6 jours avant la date, les yaourts 3 jours avant la date, etc., etc., alors qu'ils sont tout à fait parfaitement consommables. Pourquoi le fait-on? Parce que c'est un argument qui est perçu comme positif par le client. Et encore une fois, ne négligeons pas la responsabilité individuelle que nous avons, nous consommateurs, dans beaucoup de problèmes collectifs. Le gaspillage en est un. Donc on gaspille moins parce qu'on prévoit mieux les ventes, mais dans le même temps, le consommateur, il est toujours plus soucieux de la fraîcheur de ses produits. Et vous voyez, c'est ça qui explique que le gaspillage, finalement, ne soit pas réduit en France.
Il y a un vrai paradoxe. Merci beaucoup, Olivier Devers, d'avoir été avec nous. Merci pour vos explications, spécialiste donc de la grande distribution. Vous restez avec nous, on marque une petite pause, à peine une petite trentaine de secondes, et puis juste après, on parle d'un tout autre secteur, un secteur de l'aéronautique, avec cette commande record confirmée pour Airbus, c'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Et c'est Loïc Tribolaspierre qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général du Centre d'études et de prospectives stratégiques, pour revenir sur ce contrat record, en tout cas cette commande confirmée, un record pour Airbus, 250 A320 Neo de la part d'une compagnie indienne, Indigo en l'occurrence. Alors, je ne suis pas sûr de le prononcer exactement comme il faut. Deux mots sur cette compagnie qu'on a vu apparaître dans les années 2000-2006 et qui aujourd'hui est la première du pays.
Mais voilà, c'est une belle expérience lancée par des entrepreneurs qui avaient décidé tout simplement de relever le défi, tout simplement de désenclaver l'Inde, car l'Inde est un État-continent qui malheureusement était assez mal desservi. Donc c'est une compagnie qui a décidé d'intensifier les déplacements, les rotations d'avions, en créant une entreprise low cost. Et on sait ce qu'est le modèle low cost. Lorsqu'il y a de l'intérêt et qu'on a de véritables entrepreneurs, c'est ticket gagnant, ce qui est encore le cas ici. Alors en plus, on est sur un très bon produit, puisque l'A320 est le produit phare pour les compagnies low cost.
Monocouloir.
Petite cabine, et on répond à un besoin réel, c'est-à-dire un bon taux de remplissage qui permet effectivement d'avoir un bon taux de rotation et un bon taux de remplissage.
Et avion économique.
Et bien sûr, avion économique, l'A320 était déjà une bonne gamme, mais en même temps, l'A320 dit Neo permet tout simplement de voler plus, de voler moins cher et de faire des économies de kérosène et d'avoir des diminutions notamment de sonores qui sont totalement significatives. Donc Neo est le ticket gagnant dans la grande famille des A300 chez Airbus.
Alors on est tous épatés là par le volume de la commande, hein, parce que c'est le volume qui compte en l'occurrence, 250 à 320, donc je le rappelle, Neo encore une fois. Est-ce que dans les années à venir, et notamment à cause de l'Asie, ce genre de commande ne va pas devenir tout ce qui est plus banal?
Bien sûr que ça va devenir banal, parce que on va assister à un développement phénoménal de l'activité de transport.
Certains disent un doublement de la flotte mondiale.
Oui, mais alors ça, vous savez, ce sont les constructeurs ou les analystes qui ont besoin effectivement de faire brûler les cotes. C'est un peu plus nuancé que cela.
Oui, combien à votre avis?
Non, on va assister à une explosion, mais je vous rassure aussi, on va assister à, comment dire, un dégagement d'un certain nombre de compagnies qui ne tiendront pas. Donc il va y avoir aussi de la casse dans le domaine de l'aérien.
Une concentration de...
Alors il y aura une concentration puis une disparition d'un certain nombre de compagnies qui ne pourront pas tenir la distance.
Donc, je disais, c'est des commandes qui devraient devenir banales, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les deux constructeurs, que l'on connaît depuis des années maintenant, Airbus et Boeing, ne vont pas pouvoir rester uniquement deux, forcément. Plus il y aura de demandes, moins elles pourront assurer la demande.
Alors, se pose le problème, je dirais, du duopole. On est sur un système de marché qui fait qu'il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. On est sur un jeu à somme toute nul. Et on pourrait regarder de très près, on s'apercevrait que 50-50, c'est la même chose pour les deux vraiment constructeurs. Alors, après ça...
Ça se joue à quoi? Quelques avions près, c'est ça?
Ça se joue à quelques avions et puis ça se joue sur une gamme de prix, une gamme de services. Non, il va y avoir une évolution dans le paysage parce que va se poser non pas le problème de savoir s'ils pourront répondre à ces besoins, c'est de savoir est-ce qu'ils sauront délivrer au bon moment. Car c'est bien de prendre effectivement de nombreuses commandes, mais on livre quand? Et ça, c'est tout le problème aussi pour les transporteurs qui passent des accords avec la certitude d'avoir ces avions au bon moment. Donc là, va sans doute se poser le problème et le grand défi à relever pour les constructeurs, savoir accepter des commandes, mais savoir aussi les livrer au bon moment.
Les compagnies sont payées à la livraison ou à la commande?
Vous avez une acquisition, enfin plutôt une avance qui est faite, je dirais, à la commande, et puis après ça, à la livraison. Et si on ne livre pas, ben, il y a des pénalités de retard.
Qui sont extrêmement importantes, j'imagine.
Peut-être, effectivement.
On se rappelle de la 380, notamment.
Oui, ça peut se révéler très, très important.
Donc, pour vous, le problème aujourd'hui, ça va être dans la main-d'œuvre, dans l'industrialisation de ces commandes?
Ça va être effectivement dans l'industrialisation, je dirais, de ces ventes et le problème de savoir les cadencer et respecter ces cadences.
Aujourd'hui, on est quoi? On est archaïque par rapport à cela?
On n'est pas archaïque, on est tout simplement dans les bons timings, mais sans doute les chaînes de production telles qu'elles sont ne permettront pas au rythme des commandes telles qu'elles sont prises de pouvoir très certainement honorer ces commandes.
Il y a des fournisseurs derrière tout cela?
Alors il y a les fournisseurs bien sûr, mais vous savez...
C'est-à-dire que la pression va augmenter sur eux?
La pression bien sûr va augmenter, elle va augmenter auprès des fournisseurs de premier niveau, de deuxième niveau, mais la pression sera énorme sur notamment Airbus elle-même, cette entreprise qui doit assurer l'assemblage. Donc là il va y avoir effectivement de grosses pressions. Donc, il y aura très certainement deux options. Une modernisation des chaînes de production, ce qui est en train de se faire notamment du côté d'Hambourg, et puis sans doute la construction d'autres chaînes de production.
Tout cela passe évidemment par des moyens mis sur la table, des moyens financiers, des investissements conséquents.
Ben, il faudra de toute façon faire des investissements conséquents en fonction de ces commandes conséquentes.
Oui. Je reviens quand même à mon troisième acteur. Est-ce qu'on peut imaginer dans les... quoi? 4-5 ans à venir, 6 ans peut-être, je vous dis n'importe quoi, un constructeur chinois qui arrive et qui joue un peu les troubles faits.
Alors, il ne faut jamais obérer l'avenir. Il est un fait qu'il y a des plus que des velléités, de très grands désirs de la part notamment de la Chine, de devenir un grand constructeur dans ce segment. Et il va de soi qu'un duopole est intéressant, mais un triopole pourrait avoir encore plus de sens, dans la mesure où il permettrait sans doute de lisser un petit peu ses commandes, mais en même temps de faire jouer sans doute plus activement la logique des prix.
Et justement, Boeing et Airbus peuvent se permettre de rentrer dans une guerre des prix?
Airbus et Boeing se livrent une guerre des prix, mais une guerre des prix qui est raisonnable.
Elle reste gentillette.
C'est une guerre des prix qui est raisonnable en fonction des investissements et des risques de dérapage. Alors, on court aussi parfois le risque, et on l'avait craint, c'est le fait de dire qui va dégainer sur les programmes du futur. Et est-ce que je prends ce risque? Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Et là, la réponse, on avait tardé un petit peu sur les réponses d'avenir, et il y a eu ce décrochage avec notamment cette proposition Airbus de la 350 et de la 380 qui était un très très gros pari. Et puis à nouveau, ce grand pari qu'a pris Airbus, c'est de se dire, j'ai une gamme de produits à 380, 320, ça marche bien, je fais du néo.
On nous a présenté, là, il y a quelques jours maintenant, un avion révolutionnaire capable de rallier New York à Paris, si je ne me trompe pas, en une heure et demie. C'est quoi? Ce sont des effets d'annonce pour dire, regardez, oui, aujourd'hui on vend des avions, mais ce qui va venir derrière, ça sera beaucoup, beaucoup mieux.
Écoutez, là aussi, souvent, on est amené à sourire et à fantasmer sur des produits d'avenir. qui aurait pu considérer, et vous accueillez tout à l'heure le président d'Arianespace, la révolution qui va se passer dans le domaine spatial. Mmh. Imaginez si on est sur des logiques de lanceurs qui soient réutilisables.
SpaceX,
eh bien, ça veut dire que la logique spatiale française a vraiment beaucoup de soucis à se faire. On dit aujourd'hui que c'est impossible. C'est dangereux de dire ça. C'est très dangereux.
On a également appris cet après-midi que le dispositif de recherche à La Réunion fait place désormais à une vigilance attentive. Je parle évidemment de l'avion de la Malaysia Airlines, le MH370. C'est difficile de me répondre évidemment, mais selon vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces débris arrivent et que là finalement, on se dise bon, on va lever un peu le pied parce que c'était peut-être un hasard, c'était une... Voilà, les vents étaient dans le bon sens et on a récupéré des débris. Il y a une leçon à tirer de tout cela.
Il y a une leçon, c'est que tout simplement, il est quand même extraordinaire dans une économie et dans une technique qui est celle de l'aérien. On ait pu voir disparaître de tout horizon radar, de tout scope, de toute vision satellitaire, cet avion et le retrouver tout à fait par hasard. Donc là, l'interrogation qu'on doit avoir, c'est comment était-ce possible et comment remédier à une telle absurdité.
Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé.
Pour l'instant, rien n'est affiché.
En tout cas, les boîtes n'ont évidemment pas été retrouvées, mais on ne sait toujours pas où est l'avion. On est d'accord, on a retrouvé des débris simplement.
Absolument.
Ces débris peuvent nous permettre de remonter la piste.
Ils vont permettre tout simplement de dire quel était le prototype, quelle était la compagnie aérienne qui possédait cet avion. Mais non, on peut pas aller plus loin.
Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les moyens qui devraient être mis en œuvre coûteraient beaucoup trop cher.
Non, le problème, c'est que tout simplement, les boîtes noires n'ont pas permis tout simplement d'identifier le lieu où se trouvait le corps de cet appareil. Donc là, c'est face à ce silence technique et technologique. Donc ça, c'est le problème. Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Merci beaucoup, Loïc Tribolaspierre, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes le délégué général du Centre d'études et de prospectives stratégiques. Merci encore. Vous restez avec nous sur BFM Business. Les programmes se poursuivent évidemment avec, dans quelques instants, la librairie de l'écho, le rendez-vous de l'été présenté par Emmanuel Le Chypre. Et puis, quant à moi, je vous retrouverai demain dès 12h30 pour l'invité de BFM Business. Et puis, ici même endroit, même heure pour le Grand Journal. Passez une excellente soirée. À demain.